Merci. C'est bien d'être avec vous. Et c'est surtout bien parce qu'on est avec Dieu. Que Dieu m'aide à donner ce message. Donc on va, si vous voulez bien, on va commencer à lire dans Jean chapitre 3. Et que Dieu m'aide à être serviteur de ce qu'il a fait écrire. Je propose de lire du verset 13 à 19. Jean 3, et puis ensuite, oui, on peut lire dans la foulée Jean 5, 25 à 30. Donc d'abord, Évangile de Jean, chapitre 3. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection de vie, littéralement. En sortiront pour la résurrection de vie. ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection de jugement. Retournons au chapitre 3. Le ton de tout ce qu'on a lu, et en vérité de toute notre vie avec à la suite du Seigneur, le ton est donné par ce verset 13. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, concernant ce qu'il en est du ciel, de la vie éternelle, de la position des humains face à la vie éternelle ou au jugement, personne ne fait vraiment autorité sinon celui qui en vient. C'est-à-dire, comme sur tout sujet de réflexion dans la vie chrétienne, et plutôt comme sur toute méditation sur l'Écriture, ce que Jésus en dit doit l'emporter sur ce que le monde en dit, bien entendu, mais aussi sur mes représentations et les schémas que je me suis construit en tant que chrétien. C'est très glorieux ce verset 13. Puis vient le verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alors déjà, si on ne connaît pas l'épisode, on se demande qu'est-ce que ça vient faire au milieu, évidemment. Donc, si vous voulez, on va jeter un petit coup d'œil à l'épisode. Donc, Nombre 21. Donc, Nombre, c'est le quatrième livre de Moïse. Nombre 21. J'ai dit verset ? Non, ça va. Versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Donc un détour, le chemin est encore long. Le peuple s'impatienta en route. Parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Mon pauvre, la sortie d'Égypte, c'est la délivrance. Le pain méprisable, c'est la manne. Dans quel état, quelle chute là, dans le peuple de Dieu, dans quel état ils se sont mis là, ils se retrouvent. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel. » D'abord, « Et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Donc les mêmes, hein, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Voilà. J'imagine qu'on peut dire, ah, je comprends mieux ce que ça vient faire au milieu, l'épisode du serpent. Ça demeure quand même à nos oreilles un peu étrange que Jésus se compare au serpent de bronze. D'autant que bon, le serpent, c'était la première manifestation du diable, du tentateur, etc. Alors ça fait bizarre quand même, d'accord ? Et donc, c'est l'épisode, il fallait le lire, l'épisode dans Nombre 21, parce que ça explique qu'est-ce qui se passe. Ces serpents qui arrivent, c'est quoi ? C'est, dans l'histoire, c'est le châtiment de Dieu. D'accord ? C'est clair dans l'épisode. C'est le châtiment de Dieu. Et cette fois-ci, Dieu ne dit pas à Moïse, peu importe, ne guéris pas les gens comme ça, comme il a fait d'autres fois, ou n'arrête pas la plaie par telle ou telle chose, mais il lui dit, voilà, tu vas prendre l'expression du châtiment de Dieu et tu vas le mettre bien en vue sur une perche. Et après, le moyen de la guérison ici, il est incroyable, parce qu'il regarde. Alors, tout l'épisode inclut qu'il regarde, il contemple, c'est-à-dire il regarde de toute son âme. Tout l'épisode inclut qu'il regarde avec attente et avec confiance. Et avec foi en la parole que Dieu avait dite à Moïse et que Moïse leur a répétée. D'accord, c'est pas de dire « Oh, il y a un joli olivier là », vous comprenez, hein ? Donc, mais quand même, le moyen de la guérison est impressionnant parce que... Y regarder avec toute sa foi suffit. Et donc, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui décode, si vous voulez, ou il n'est pas codé en l'occurrence dans Nombre 21, c'est assez clair quand même, mais qui dit le sens ultime de cette histoire. Et donc, verset 14 dans Jean 3, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. Vous savez que dans la bouche de Jésus, il n'y a pas beaucoup de « il faut ». Mais ceux qui y sont, ils sont absolument vitaux. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Et puis, ça c'est le verset 15, et puis vient le 16, donc celui qui est tellement connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il donne son Fils. Il donne son Fils. Mais donc c'est Jésus lui-même qui le dit ça. Mais il le donne, enfin pas mais, pardon, à noter, à relever, qu'il le donne comme manifestation du châtiment de Dieu sur le péché. D'accord ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 4. Ou 5 peut-être. Et Jésus continue, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Par lui. Et c'est pour ça, donc c'est clair, Dieu envoie son Fils pour subir le châtiment du péché des hommes. C'est pour ça qu'il l'envoie. C'est principalement pour ça qu'il est incarné. Si Jésus ne s'incarne pas en vrai homme, il ne peut pas être mis à mort. Ce n'est pas possible. Et donc, il ne peut pas être celui sur qui tombe le châtiment de Dieu contre le péché. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il a porté nos péchés en son corps. Dieu ne l'envoie pas pour juger le monde. Il l'envoie pour être jugé. Enfin, en l'occurrence, pardon, oubliez le dernier mot, il n'est jamais écrit que Jésus a été jugé. Parce qu'il l'envoie pour être condamné, châtié, pas jugé, parce qu'il n'y avait rien à juger en lui. Il l'envoie pour être condamné. Et donc, ce n'est pas pendant le temps où Jésus vient comme homme sur terre, il ne vient pas avec sa fonction de juge. Mais en aucun cas le verset 17 ne signifie que Dieu ne juge plus. Il faut déplorer très très fort l'idée, une idée qui s'est répandue comme ça dans le monde chrétien de tous bords. Avant c'était la loi, maintenant c'est la grâce, et la grâce ça signifie que Dieu ne juge plus. Si Dieu ne juge plus, il a changé sa nature. Donc, simplement, Dieu exerce sa patience et Jésus, incarné, n'est pas venu juger. Mais qu'est-ce qu'on a lu dans le chapitre 5? Il a remis tout jugement au Fils. Et comme ça m'a été rappelé ce matin, l'apôtre Pierre dit, Jésus nous a commandé de prêcher au peuple que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Donc, c'est gentil de vouloir convaincre les gens de la grâce. Et c'est bon de vouloir aider les frères et sœurs à croire à la grâce. Mais il ne faut pas que ma gentillesse pour promouvoir la foi dans la grâce aille jusqu'à déformer ce que Jésus a dit et même contredire. Et c'est remarquable parce qu'au verset, donc c'est clair là au verset 17, il dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis il continue, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Amen. Et il continue, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc en aucun cas il y a évaporation du jugement. C'est pas bon, ça c'était avant. Avant Dieu, il était super sévère, et maintenant il est super cool. Vous voyez ? Alors, je vais vous faire une question. Alors, dans l'Ancien Testament dit à peu près 270 fois que Dieu juge, si on prend aussi les mots condamner, rendre des comptes, etc., châtie, et encore sans compter colère, frappe, etc. Sans compter ça, voilà, 270 fois. Alors, à peu près les mêmes mots, combien de fois on les retrouve dans le Nouveau Testament? Allez, donnez-moi un chiffre. 270 fois dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu juge ou un mot comparable. Combien dans le Nouveau, dont le volume est le dixième, hein? Alors j'ai 50. Pareil. Non, non, non. Donc on est allé de beaucoup moins à égal ou plus. Donc on a tout fait, d'accord? Bon, 170. C'est-à-dire, l'Ancien Testament est écrit sur 1000 ans. Et c'est un volume énorme. Et si vous voulez, sur des paroles inspirées par Dieu pendant 1000 ans, 270 fois, plus les mots colère, etc., il est précisé que Dieu juge. Et il le montre par ses actes. Le Nouveau Testament est écrit sur une trentaine d'années, peut-être un peu plus avec l'Apocalypse. Et sur cette trentaine d'années, 170 fois, le Saint-Esprit fait dire à quelqu'un que Dieu juge. Et bien entendu, parmi tous ces quelqu'un, qui c'est qui le dit le plus souvent ? Oui. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui le dit le plus souvent. Si je ne me trompe pas. Donc, il n'y a pas que la loi qui parle de jugement. Alors, quelques exemples. On a déjà lu dans Jean 5, mais vite fait, Matthieu 12. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. On a lu résurrection de vie, résurrection de jugement. Voilà. Et puis, etc., etc. Alors, Ésaïe 33, verset 22. Ça, on peut, hein, 33, 2, 2. Ésaïe 33, 22. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai lu? Qui c'est qui me sauve? Le juge. En vérité, qui peut acquitter un coupable? Si ce n'est un juge. Alors maintenant, une donnée que j'aurais pu dire en introduction du message, mais bon, je crois que c'est bien comme ça aussi. Dans toute la Bible, d'un bout à l'autre, pour quiconque honore un tant soit peu Dieu, le fait qu'il juge est une bonne nouvelle et un sujet de joie. Et c'est même commandé dans Apocalypse 18, « Réjouis-toi sur elle, la grande Babylone, parce que Dieu l'a jugée. » En l'occurrence, parce qu'il t'a rendu justice en la jugeant. Et les exemples, dans les psaumes, par exemple, donc psaume 9, verset 8, « L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. » Alors, au psaume 96, « Des acclamations !» car il vient pour juger la terre. Petite image, je ne sais pas ce qu'elle vaut, deux sous, je pense. Quand c'est le désordre absolu, le mal le plus noir, l'horreur, la méchanceté, les crimes, et j'évite les mots encore pires, l'arrivée de la police, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Voilà. Donc, c'est une comparaison, hein. Voilà, c'est une petite comparaison. Des acclamations, car il vient juger la terre. Et Dieu juge, et donc il y a une espérance de justice. Et la promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres, il est précisé, la nouvelle terre où la justice habitera. Implicitement, elle n'habite pas vraiment sur cette terre. Donc, le jugement est chanté dans les psaumes. Il y a quelques chants qu'on chante, où, justement parce qu'ils sont inspirés de psaumes, où ça apparaît. 41 fois, le jugement est chanté dans les psaumes. Oui, c'est pas, je veux dire, si quelqu'un se dit, bon, ben forcément, il connaît bien la Bible, lui, là, donc, il nous a trouvé un ou deux versets où le jugement est sujet de joie. Non, non, rien que dans les psaumes 41 fois. Dans l'Apocalypse, n'en parlons pas, etc. Alors, je reprends le premier, psaume 9, verset 8. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Qui c'est qui aime le trône de Dieu? Qui c'est qui considère que c'est pas rien? le fait que Dieu soit roi, qu'il siège, etc. Et approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir un secours au moment opportun. C'est le trône du Créateur, c'est le trône du Père, c'est le trône de la grâce et c'est aussi le trône du juge parce que Dieu, il n'est pas compartimenté. Il est un. L'Éternel est un. Voilà, on le développera un peu plus loin encore ça, que c'est pas compartimenté. Alors, très souvent dans la Bible, le mot, vous avez dans un verset, souvent la même phrase, le mot trône et le mot jugement reliés. C'est capital de le comprendre. C'est capital de le comprendre. C'est une erreur. C'est une erreur et qui est très, très dommageable et qui gâche notre regard sur Dieu et qui... Enfin, voilà. C'est une erreur de penser, d'opposer Dieu est bon à Dieu juge. C'est une grave erreur. Parce que quand on fait ça, on ne peut pas le faire autrement qu'en le disant et donc en l'entendant en termes de positif et négatif. Vous voyez, bon, Dieu est bon, c'est super, c'est positif. Ça, wow, ça il faut le croire, il faut le prêcher. Oui, bien entendu qu'il faut le croire et qu'il faut le prêcher et le chanter. Ah, ça c'est positif. Bon, malheureusement, il y a aussi un revers de la médaille, alors je ne vais pas blasphémer et dire un côté sombre, enfin, ça y est, je l'ai dit, mais c'est... Enfin, cette dichotomie-là, ceci, mais l'autre côté, vous voyez, comme ça, ça, c'est dans la pensée humaine, c'est dans l'être humain qui à la fois aspire à du pur, à du beau, et à la fois, des fois, aspire aussi directement à des souillures, ou même s'il n'y aspire pas, est esclave de souillures. Donc chez nous, oui, on dit, ouais, il est formidable, lui. Malheureusement, il y a aussi un côté, enfin, vous voyez, demandez à son épouse. Donc, mais en Dieu, non. D'accord ? En Dieu, non. Si on définit Dieu, si on le décrit, si on parle de lui, a fortiori, si on le prie à travers cette grille-là, il ne faut pas s'étonner que quelque chose ne va pas dans ma piété. Et que mon assurance en tant que chrétien n'est pas si solide que ça. Si mon assurance dans la grâce, si j'ai la paix avec Dieu, seulement parce que je réussis dans mes chants, dans mes lectures, diverses lectures, et même en lisant la Bible, à écarter ce que je trouve négatif au sujet de Dieu, si c'est seulement pour ça que j'ai de l'assurance et la paix avec Dieu, eh bien le premier coup devant ton assurance, elle se retrouve où ? La véritable assurance devant Dieu, c'est de se fier à lui et de l'aimer comme il se décrit lui-même, comme il est. Et là, je suis sûr. Et là, je peux arriver à dire, mais je suis heureux, Père, que tu sois mon juge. Et l'apôtre Paul, il le dit, il dit, moi, je ne me juge pas. Il dit, il m'importe fort peu d'être jugé d'un jugement d'homme. Et il rajoute, et je ne me juge pas non plus moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et là, c'est bien. Parce qu'il n'y a que là que c'est bien fait. Amen. Voilà. Pierre dit, alors oui, j'ai oublié de préciser en début que l'étude biblique sera sur le même thème. Là, je fais juste un message qui pose le message du jugement dans la Bible. Et après, on fera une étude avec qui répondra à peu près aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce qu'il fait quand il juge? D'après les mots, ça sera un survol hein, dans la Bible. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? ensuite qui, il juge qui, et puis un petit peu aussi on va parler de quand. Voilà, d'accord? Une étude biblique qui part avec l'aide de Dieu, apportera des réponses, au moins partielles, à quoi, qui, quand. Ok? Voilà, j'ai vendu mon étude. Non, pardon, voilà. Donc, Dieu juge est un sujet de joie. Qui c'est qui a déjà sautillé sur place et dansé parce que Dieu juge? Amen. Ben, il y en a au moins un. Sois un précurseur, un pionnier dans le peuple de Dieu. En tout cas, dans les psaumes, ça fait presque 1 sur 3 qui chantent le jugement. Voilà. Donc, Jésus n'oppose pas Dieu juge à Dieu est bon. Et je propose de lire une parole de Pierre, 1 Pierre 1, verset 17. Si vous invoquez comme Père, Abba, Père, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, sans parti pris, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Et cette crainte-ci n'est pas de la peur, mais la crainte de Dieu. Vous invoquez comme Père celui qui juge. Amen. J'en profite pour rappeler, je l'ai peut-être déjà dit ici, je sais que je l'ai dit ailleurs, Abba, ça ne veut pas dire papounet, hein, en hébreu. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi l'idée s'est répandue que c'est le mot que les tout petits enfants qui savent à peine parler disent pour le père. Pas du tout. Ça veut dire père. Papa, père. Mais dit par un proche, c'est tout. Voilà. Donc, ce n'est pas papounet, c'est je l'invoque comme père. Et c'est aussi, je me remets à son jugement à lui aussi. C'est ça qui me permet, ça m'aide énormément à obéir à la parole de Jésus, ne jugez point. Alors quand je dis ça m'aide énormément, je le dis comme ça aide tout chrétien, mais c'est aussi un témoignage en l'occurrence ici. Oui, plus Dieu m'a fait croire et aimer ce que dit la Bible au sujet de son jugement, plus il m'est devenu facile de ne pas juger les autres. Parce que c'est à lui. Alors, Dieu est bon, Dieu juge. Ça forme un tout. De toute éternité, avant de créer l'homme, Dieu est lumière. Et c'est pour ça qu'il a fait de nous des enfants de lumière. Il est lumière. Et Jésus le dit, on l'a lu au Jean 3, 19, il dit, celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière. C'est contre la lumière que va le péché. De telle sorte que rejeter le péché, le juger, c'est-à-dire à la fois discerner qu'il est mauvais et le déclarer mauvais, d'accord ? À la fois discerner qu'il est mauvais et le déclarer mauvais, c'est dans la nature de Dieu. Sinon, il se renie lui-même. Si Dieu ne juge pas, non seulement c'est un grand malheur pour les hommes, parce qu'il n'y a aucune espérance de justice possible et aucun salut, je le redirai si vous voulez, mais donc non seulement c'est un grand malheur pour l'homme, mais si Dieu ne juge pas du tout, jamais, et s'il, j'allais dire, s'il renonce à ce qu'il est, il se renie lui-même. Ce n'est plus le Dieu souverain, éternel, créateur, père, sauveur. Enfin, créateur, sauveur, père. Donc c'est le plus grand malheur possible pour les hommes. Si Dieu n'est plus tel qu'il est, malheur aux hommes. Parce que même ceux qui voudraient sortir du mal, comment ils sortent? Alors j'ai dit, ils sauvent. Si Dieu ne juge pas, les hommes ne sont pas sauvés. On a commencé par là, mais je le répète. L'Écriture le répète d'un bout à l'autre, et Jésus insiste dans ce qu'on a lu. Jésus insiste, comme Moïse éleva le serpent. C'est-à-dire, si Dieu ne juge pas le mal, est-ce qu'il envoie son fils pour être crucifié en portant les péchés? Il ne juge pas, il se bouche les yeux, vous voyez, il résout autrement. S'il ne juge pas le mal, est-ce que Jésus vient? Est-ce qu'il endosse nos fautes? Et est-ce qu'il fait l'expiation? Il expie nos fautes et les efface. Non. Donc, si Dieu ne juge pas, si Dieu n'est pas dans sa nature juge, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Alors évidemment que la distinction entre celui qui sera attiré vers la lumière et celui qui préférera les ténèbres demeure. Jésus l'a bien dit, celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière. Et puis au verset 20 dans Jean 3, il dit au contraire, celui qui fait les œuvres que Dieu commande, eh bien celui-là, il aime venir à la lumière. Et puis il a parlé de résurrection de vie et de résurrection de jugement. Mais la distinction demeure. C'est-à-dire que malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Cependant, ceux qui seront sauvés le seront par un châtiment, la croix. C'est pour ça qu'en soi, la croix et la Sainte-Cène, par exemple, n'est pas un moment de fête. Parce que c'est la communion au crucifié. Après, il y a une chose qui est peut-être pas simple dans la manière dont j'ai parlé dans ce message, on va l'éclairer dans l'étude biblique. C'est que Dieu juge, c'est large, ça couvre tout, ça couvre ceux qu'il va sauver, ça couvre ceux qui seront perdus. Et donc là, il y aura besoin de voir quelques textes pour bien s'y retrouver et répondre à la question « qui ?» Il juge qui ? Vous voyez ? Alors, je ne vais pas vous faire... Son jugement commence par sa maison. Et puis, bien sûr qu'il jugera aussi ses ennemis. Voilà. Donc, Dieu juge égal. Il reste Dieu. Il ne renie pas sa nature. Il refuse d'appeler le mal bien. Et il veut y mettre fin. Et comment il a mis fin au mal dans ma vie? Par un châtiment. Sauf qu'il n'est pas tombé sur moi. D'où la reconnaissance. Voilà. Je pense que ça suffit pour ce matin. Voilà. Si vous voulez, en début d'étude, je vais en une minute faire un résumé, rappeler les quelques points du message. Merci, notre Père. Nous sommes tellement reconnaissants envers toi, notre Dieu, qui est devenu notre Père, parce que tu es Dieu et Père de Jésus-Christ. Tellement reconnaissant que tu te fasses connaître, que tu ne caches pas plus ta face, que tu te tiens pas lointain, tu te fais connaître comme tu es. Et là, tu donnes la foi. Et là, nous trouvons pleine assurance et pleine paix. Et en te connaissant, nous découvrons de plus en plus que tout ce que tu dis sur toi-même est bon et bénissant. Et nous voulons tous te dire, oui, nous t'aimons, notre Dieu, comme tu es. Ou plutôt Dieu, voilà, le Dieu que tu es, le Dieu que tu es. Nous t'aimons et nous voulons tous te dire, nous nous fions à toi. Nous avons confiance en toi et nous te remettons toutes choses, nos personnes, nos âmes, nos actes, nos pensées. Nous te remettons tout, toutes choses et tout l'entourage, et tout et toutes nos pensées. Parce que tu es le bon Père qui juge et qui sauve.